With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Louis.
So.
Si je vous dis fête de fin d'année, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit là tout de suite? Moi, j'ai un souvenir assez précis d'un repas de Noël il y a quelques années. À l'époque, je suis végétarienne depuis peu et c'est la première fois que je revois certains membres de ma famille avec qui je ne vis pas au quotidien. Tout se passe bien, même si je suis encore placée à la table des enfants. Chacun parle avec son voisin, rattrape les moments forts de l'année. Jusqu'à ce que plusieurs personnes remarquent que j'ai remplacé dans mon assiette la traditionnelle dinde de Noël par un steak végétarien. Et évidemment, tout le monde a un avis, et pas uniquement positif. Je vous laisse imaginer la suite. Et des récits de disputes de ce type, j'en ai plein. Que l'on m'a raconté, que j'ai vu dans des films ou des séries. Comme si la période des fêtes de fin d'année ajoutait un peu de piment aux crispations familiales qui existent déjà le reste du temps. Alors, pour apporter notre contribution à cette période qui peut parfois être complexe, on vous propose dans Passage un épisode tout doux, à écouter près d'une cheminée, avec un chocolat chaud, seul dans votre lit en pleine digestion après les festivités, ou même dans le train après avoir claqué la porte à cause de la dispute de trop. Dans cet épisode, vous entendrez successivement trois voix. Celle d'Irène, la grand-mère, d'Anaël, la petite-fille, et de Romy, l'arrière-petite-fille. Ce sont trois histoires de premier amour qui se rejoignent par le lien familial qui unit les personnes qui nous les racontent. Ces histoires interrogent notre rapport à l'amour, à quel point notre vision de celui-ci se construit, se transmet et évolue au sein d'une famille. Cet épisode a été tourné par un autre membre de cette famille, la journaliste Marie Sala. Je vous souhaite de joyeuses fêtes.
Je suis Charlotte Pudlowski.
Je suis Maureen Wilson. Bienvenue. Dans Passage.
Nous sommes en 1956, j'ai 26 ans, j'habite Chambéry, j'ai un petit studio au centre-ville et je travaille dans un hôpital psychiatrique comme infirmière. Pour aller au travail, je me déplace en vélo moteur. J'ai une amie qui s'appelle Huguette, que je vois régulièrement, on travaille ensemble et on s'entend très très bien. C'est une amie que j'aime beaucoup, qui est très extravertie, alors que moi je suis le contraire. Donc elle m'entraîne facilement dans, je ne veux pas dire dans ses délires, je vais dire dans moi. Parce que elle, pour. Je l'adore, cette fille, hein. Mais alors, c'est fou. C'est fou, cette fille. Nous sommes en plein été et c'est mon jour de congé. Donc, j'avais décidé de faire un tas de petites choses chez moi. Même. Et j'ai Huguette qui arrive et qui me dit : écoute, voilà, je suis avec mon mari et un copain de mon mari qui nous attendent en bas dans la voiture. Il monte à Baloire pour livrer du poisson dans un restaurant. Alors elle me dit, je ne veux pas rester toute seule avec les deux gars. Là. Elle me dit, tu viens avec moi? Je dis, oh non, 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 moi c'est mon jour de congé, non, tu me fous la paix. Hein. Ah ben tu vas pas me faire ça, écoute, je suis toute seule avec eux, tu te rends compte de la journée, enfin c'est pas marrant, tu peux faire un effort. Non mais ça dure, je sais pas moi, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, parce que quand elle a envie de quelque chose, attention. Hein. Eh ben j'ai cédé, j'ai dit bon ben écoute, je me change et puis j'y vais. Donc nous sommes descendus, la voiture était en bas devant la porte. Je suis rentrée dans la voiture où il y avait donc son mari et son copain. Alors là, elle me présente en me disant, ben voilà, il s'appelle Marcel et il est pas mal. Il me déplaît pas, mais enfin bon, c'est déjà quelque chose. Au moins, je suis pas descendue pour rien. Elle ouvre la partie et... Je voyais qu'il me regardait dans le rétroviseur et moi, je voyais que ses yeux verts, là, presque tout le long, il ne m'a pas lâché. Enfin, on est arrivé à Baloire et nous arrivons au restaurant. Alors là, ben, ma foi, nous avons déjeuné. Je le trouve sympa parce qu'il est sympa. Il est même très sympa. Et il me raconte ce qu'il fait. Donc, il m'apprend que ses parents fabriquent des produits alimentaires. Et donc, il travaille avec eux. Ce sont des gens qui ont de l'argent. Et donc, moi, je lui dis que je n'ai pas de parents, je suis seule, que je travaille comme infirmière. On se raconte notre vie, voilà. Et une fois terminé, on est reparti. Donc, on a beaucoup discuté en route, enfin, des banalités. Hein. Et nous arrivons à Chambéry. Devant chez moi, il me dépose et il me demande « Vous faites quoi ce soir ?» Et il me dit « Parce que, voilà, j'ai envie de vous emmener au casino d'Annecy. » Ah, ben j'ai dit « Oui, pourquoi pas ?» Et puis avec mon ami Huguette et son mari. Elle m'a dit « Oui, pourquoi pas ?» Il ne devait pas avoir envie. Et moi, je voulais. Parce que je ne le connaissais pas assez, je n'avais pas envie de me retrouver toute seule. Donc, je le laisse partir et je me dis, bon, ben, je vais me préparer. Et je choisis une robe que j'aime beaucoup, forme princesse, bleu ciel, avec des petits ramages. Et voilà, et donc à 8 heures, il est là, il vient me prendre. Et ensuite, nous partons chercher mon ami qui habite beaucoup plus loin. Et nous voilà partis à Annecy. Nous avons dîné. C'était sympa. Nous avons dansé. Nous sommes restés assez tard. Et nous sommes rentrés le soir. Nous avons déposé mes amis. On s'est dit au revoir. Poignée de main. Et Marcel me dit, je peux vous revoir demain? Alors je lui dis à quelle heure je travaille. Je suis contente. Je me dis, oh, sympa. Et on se voit tous les jours. Et moi, j'en suis très heureuse. Et bon, tout ça, ça se passe un été. Et donc, un soir, en revenant de cinéma, il m'a raccompagnée. Et là, dans la voiture, eh bien, nous sommes embrassés. Et bon, ben je pense que là, j'étais en train de tomber amoureuse. Lui, je pense aussi. Et ben ça y est, nous étions ensemble. Un jour qu'on se promenait, il me raconte que ses parents ont des amis américains qui ont beaucoup d'argent et qui ont une fille. Et les parents ont mijoté de les marier. Mais Marcel n'est pas amoureux de cette fille. C'est une amie, tout simplement. Et donc, je me dis, bon, ben oui, je ne trouve pas ça tellement important, j'y pense plus. Et comme nous sortons souvent, et très souvent au restaurant, un jour, nous trouvons à Aix-les-Bains, au restaurant, sur une terrasse. On discutait, on mangeait, il faisait beau, c'était super, et tout d'un coup, arrive cette fille avec son père. Cette fille à qui il avait dit qu'il ne pouvait pas sortir avec elle ce jour-là parce qu'il avait promis à un copain d'aller le rejoindre. Et donc, évidemment, je le vois Marcel se lever d'un bond. Il va leur dire bonjour. Elle lui dit, pas mal ton copain. Il ne devait pas être bien à l'aise. Hein. Alors, il revient vers moi, tout ça, mais bon... Et je lui demande, mais c'est qui ? Et ben, il me dit, ben, c'est Florence, la fille dont mes parents voudraient que j'épouse. Ah bon ? Je dis, mais elle arrive au même restaurant, avec les restaurants qu'il y a à Aix, elle vient dans le même. Mais c'est une fatalité quand même, hein ? Enfin bref. Mais moi, ça m'inquiète vraiment pas. Parce qu'on est tellement bien ensemble que s'il ne veut pas sortir avec cette fille, il y a une raison quand même. Ça passe, hein. On est reparti. Bref, le temps passe, l'hiver arrive et Marcel m'apprend que son père lui achète une propriété en Charente. J'ai dit, mais pourquoi tu t'éloignes ? Alors, il me dit, ben parce que je ne m'entends pas très bien avec mon beau-frère à la fabrique, à l'usine. C'est compliqué et il préfère que je quitte Chambéry. Alors, ben bien sûr que je suis pas bien contente. Hein. On n'est pas bien contents. Donc, on est un peu déçus. On s'est promis de s'écrire régulièrement, ce qu'on a fait. Et moi, je passe mes vacances en Charente, dans sa propriété. Les parents ne savent pas, bien sûr. On fait comme ça tout l'hiver et le printemps arrive. Et un jour, je reçois une lettre. Je ne reconnais pas l'écriture. Je l'ouvre et c'est la mère de Marcel qui m'écrit. Elle me donne rendez-vous dans un collège à la Villette où son fils était gamin et où elle connaît bien l'abbé Loridon qui dirige ce collège. Ben, je monte, je prends mon vélo moteur et je grimpe à la Villette où je rencontre cette femme qui me dit, voilà, mon fils est fiancé avec la fille de nos amis, nous sommes des commerçants, me fait comprendre qu'il y a l'argent qui joue au milieu de ça. Et nous aimerions bien que vous laissiez Marcel tranquille. Alors, bien sûr, je suis surprise, mais... Je lui dis, mais madame, il n'y a pas de problème. Je reprends mon vélo moteur, je descends, je vois le père qui était caché derrière le mur pour me voir passer. Je rentre chez moi et je suis triste, bien sûr que je suis triste. Mais j'écris à Marcel en lui disant que, ben voilà, que j'ai rencontré sa mère et que c'est plus la peine qu'on se voit. Il vaut mieux qu'on se quitte. Je ne vais pas me battre avec ces gens. Bon, le temps qu'ils reçoivent la lettre, et un soir très tard, j'entends taper à ma porte. J'ouvre et je vois Marcel. Je me rappelle tout le temps, il y avait un pull-over rouge à col roulé, blanc. Il rentre, puis il me dit, j'ai reçu ta lettre, mais tu ne vas pas me faire ça, c'est pas possible. Je lui dis, écoute, ta mère a l'air vraiment décidée, elle veut vraiment que je te quitte, que tu épouses cette fille. Qu'est-ce que tu veux que je fasse contre ? Moi, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, moi. Mais non, tu vas pas me quitter. Enfin, ça dure, il passe la nuit avec moi. Difficile de résister, c'est pas possible. Eh ben, j'ai cédé, j'ai dit que ben, je le quittais pas. J'ai dit, on verra bien ce qui se passe. Et donc, on continue à s'écrire et je continue à aller le voir en Charente. Et un jour, j'apprends que son père a un accident de voiture et qu'il est décédé. Oh ! Donc, la mère redemande à son fils de revenir à Chambéry pour travailler à la fabrique, parce que son père n'est plus là, c'est lui qui m'a dirigé. Il revient à Chambéry, et là, moi, je découvre que je suis enceinte. Donc, je suis un peu embêtée, et j'en parle à Marcel, qui en parle à sa mère. Et moi, je ne suis pas au courant, bien sûr. Et un beau jour, on tape encore à ma porte et c'est la sœur de Marcel qui arrive et qui me dit, ben voilà, je viens de la part de ma mère, il faut que, à tout prix que vous abortiez, vous pouvez pas, c'est pas possible de garder cet enfant. Là, je la coupe, là. Je dis, écoutez, moi, je n'ai pas besoin de Marcel pour élever mon enfant. Je gagne bien ma vie. Et mon enfant, je vais pouvoir l'élever toute seule. Mais je n'avorterai pas. Elle est partie. Moi, je me suis dit, il n'y a pas de problème. Mon enfant, je sais que je peux l'élever toute seule. J'en suis sûre. Alors, 2 mois après que j'apprends que je suis enceinte et que la sœur de Marcel est venue taper à ma porte, je sors de faire mes courses et je tombe. Je prends mal, je m'évanouis dans la rue. Et donc, Marcel est venu me voir et je lui ai raconté. Alors là, il a dit à sa mère, voilà, il y a Irène, elle est tombée, elle a pris mal et elle est seule. Elle a dit, ben, on ne peut pas la laisser toute seule. Elle n'a qu'à venir vivre chez nous à Bimine. Ben, je me suis dit, bon, je suis toute seule, j'ai personne. Il m'arrive quoi que ce soit, je suis toute seule. Et moi, je voulais être près de Marcel. Donc, j'ai accepté, je suis montée à Bimine, vivre à Bimine avec eux. Mais alors là, on m'a donné une chambre à part. Loin de Marcel, où il venait me rejoindre le soir. Bon, il ne restait pas parce que c'était un petit lit. C'était une petite chambre avec un petit lit. C'était un peu une cellule, tu vois. J'étais punie. Et tous les soirs, il venait passer un moment avec moi. Et voilà. Et donc, j'ai vécu ma grossesse là-haut, chez eux, jusqu'au 3e mois. Et au 3e mois, il fallait qu'on se marie parce que j'étais enceinte, j'allais avoir un enfant, vous vous rendez compte. Mais surtout pas à Chambéry. Il fallait pas que les gens voient que son fils se marie avec une fille qui n'avait rien. Donc, ils nous ont envoyés se marier en Charente. J'ai pas voulu mettre une robe blanche parce que je méritais pas. J'étais enceinte. Ah non, non, ben, j'avais fauté. Et oui, mais à l'époque, fallait même aller te confesser, mais je ne l'ai pas fait. Hein. La confesse, je n'aimais pas trop ça. Je trouvais ça un peu foucheton. Parce que tu peux raconter ce que tu veux. Hein. Non, pas d'accord. Mais donc, je me suis fait faire un ensemble à carreaux bleu et blanc, bleu ciel et blanc. La robe toute boutonnée sur le côté, avec la petite veste courte. J'étais heureuse malgré tout, très heureuse. Je me mariais, mais pour la vie, c'était pour la vie. Moi, j'étais heureuse, j'allais passer ma vie avec lui et mon enfant. En septembre 61, j'ai ma fille aînée, Marie-Christine. On était heureux, là, à la campagne, toujours, avec mon petit bout, là, mon Dieu. Oh là là. Et 16 mois après, J'apprends que je suis enceinte. Pas de problème, j'étais heureuse. Et en novembre 63, naît ma deuxième fille, Véronique. C'était super, j'étais toujours très heureuse. Et 16 mois après, je retombe enceinte une troisième fois. Et donc là, c'est en mars 66 où j'ai ma troisième fille, Nathalie. J'étais toujours heureuse. Oh oui, je l'étais, là, c'est sûr. Et 16 mois plus tard, je retombe enceinte une quatrième fois d'une petite fille, Sophie, qui naît en mai 68. Les filles ont grandi, je me suis arrêtée à 4. J'ai jamais repris le travail, bien sûr. Bon, moi, j'étais toujours très heureuse avec mes filles, mais les années passant, les affaires de Marcel ont périclité. Et pour nous aussi, pour notre couple, ça a été fini. Rien ne va plus, mais on continue de rester ensemble. Ma fille aînée a un enfant, donc je deviens grand-mère à 52 ans, en 1983. Mais Marcel, c'était la catastrophe et on finit par se séparer. Et c'était en 84. Et je redeviens célibataire. Une désillusion, oui. Bon, une désillusion, mais malgré tout, j'y croyais quand même encore, malgré tout, oui. Après que Marcel m'ait quittée, j'ai quand même eu des aventures et j'ai compris que l'amour existait toujours. L'amour, c'est pas le mariage, c'est autre chose. Le mariage, c'est... Aujourd'hui, les jeunes, beaucoup ne se marient plus et ils sont bien plus heureux, hein. Et c'est ça, le mariage, c'est de la connerie. Moi, je serais jeune aujourd'hui, je ne me marie pas. Non, non. Je serais jeune aujourd'hui, alors je ferais partie des féministes. Hein. Oh non, de chien et comment hein.
J'ai 14 ans et l'amour, j'y crois plus du tout, en fait. Et je quitte l'enfance et je quitte l'imaginaire des Disney où la princesse va forcément trouver son prince charmant à la fin de l'histoire, quoi. Et je me rends compte que bah, ça existe peut-être pas forcément et qu'on trouve peut-être pas toutes nos princes charmants. Et en même temps, c'est une idée que j'abandonne, on va dire, l'idée de finir ma vie dans mon château avec mon prince et mes 56 enfants. C'est une idée que j'abandonne et en même temps, c'est une idée que ça me dérange pas tant que ça de l'abandonner. C'est quelque chose que j'accepte et c'est quelque chose avec lequel je vis pas trop mal. Dans ma famille, en fait, déjà, on est une famille à grande majorité féminine et c'est pratiquement toutes des femmes célibataires, que ce soit ma mère, mes tantes, ma grand-mère aussi. C'est vraiment... je suis la dernière de ma famille et donc moi, je n'ai connu personne en couple. Et donc, j'ai 14 ans et je rentre en fait en même temps dans une association, dans un château. Parce que je ne crois plus aux princesses, mais j'aime les châteaux quand même. Et donc, je rentre dans cette association où on fait du théâtre. Et je rencontre énormément de personnes. Et je rencontre énormément de jeunes, surtout. On est une quarantaine à avoir entre 16 et 20 ans et à passer donc tous nos week-ends ensemble. Et ce, pendant 3 mois. C'est une asso où tout se passe très bien. On est beaucoup entre jeunes, il se passe plein de choses. Alors forcément, on a tous des petites histoires d'amour les uns avec les autres, mais c'est des trucs auxquels nous-mêmes, on croit pas vraiment. Et donc forcément, voilà, on en enchaîne plein sans que... Enfin, on sait que c'est des choses qui n'auront jamais le lendemain, quoi. À 14 ans, une histoire d'amour, c'est... on sort ensemble, on s'embrasse dans les couloirs, et puis ça fait des potins à raconter pour les autres potes, quoi. Globalement, ça tourne autour de ça. Ça dure le temps de l'assaut, donc entre 2 semaines et 3 mois. Et puis ça s'arrête, et l'année d'après, on se retrouve et on est potes. Donc forcément, des liens secrets. Et là-bas, je rencontre un garçon qui s'appelle Kerian. Et donc, je suis encore au collège, lui, il est au milieu du lycée. À un moment donné, on n'est pas dans les mêmes phases de nos vies. Puis les années passent, donc il y a toujours ce garçon dans cette association, que je retrouve donc un an plus tard, là j'ai 15 ans. J'ai toujours le même style de relation avec tout le monde, lui ça reste un pote. De son côté, lui il a une copine où c'est un peu plus sérieux déjà. Et on se croise toujours dans les couloirs du château, on est potes, mais rien n'a changé. Arrive ensuite l'année d'après, et donc là on est en 2020. Et évidemment pas d'association, pas de château, pas de théâtre, parce que le confinement arrive, tout se ferme. On est confinés et donc on se retrouve chacun à passer ces 3 mois comme ça, chacun chez soi, sans se voir. Donc on passe nos journées au téléphone les uns avec les autres pour essayer de garder un contact. Je passe des après-midi entières en visio avec mon meilleur pote pour essayer d'avoir un petit contact humain de temps en temps. Et bah, on en souffre beaucoup quoi, parce que moi j'ai 16 ans et c'est difficile quand même de passer autant de temps tout seul et de ne pas avoir de contact. Et de perdre en fait toutes ces habitudes qu'on avait de voir les gens à l'école, dans cet asso, dans les activités, enfin partout quoi. Et on arrive donc en juin, on n'est pas allé en cours depuis 3 mois. Et donc après 3 mois de confinement, on pète un peu un plomb quoi. Et forcément avec l'été, les soirées, les sorties, les retrouvailles chez les uns chez les autres. Mais là, après 3 mois passés sans voir personne, on a cumulé, on a fait des soirées dès qu'on pouvait. Puis un soir, en fait, la toute première soirée qu'on fait, on l'a fait juste avec les 3 filles du groupe. Donc on est toutes les 3, soirée pyjama, et on dort dans une tente. Et on apprend un truc assez sympa, c'est qu'on est au téléphone avec Kerian, justement. Ce qui est un truc un peu exceptionnel parce qu'il répond globalement jamais au téléphone, donc on est au téléphone avec lui. Et au détour de la conversation, il nous apprend qu'il n'est plus en couple. Et donc, on est un peu triste pour lui sur le moment, mais finalement, il nous dit que ça va, c'était sa décision de ça, donc... Cool, c'est chill. Et donc voilà, donc c'était notre première soirée de l'été juste entre filles. Et ensuite, on enchaîne les soirées avec forcément les garçons. Et à ces soirées-là, avec Kerian, on se retrouve beaucoup et on sympathise beaucoup plus qu'avant. Parce que c'est vrai qu'avant, on était potes de loin, on va dire. Moi, j'étais très copine avec sa sœur, en fait, à l'origine. Et là, on se retrouve à ces soirées où on discute les yeux dans les yeux toutes les soirées, au point où c'en est vraiment pénible pour les autres parce qu'ils n'arrêtent pas de nous dire « bah c'est relou, quoi, juste arrêtez et venez un peu dans le groupe ». Et c'est comme si rien n'existe autour, en fait. On est l'un avec l'autre, on discute, et quoi qu'on fasse, on trouve toujours moyen de revenir sur cette conversation où il n'y a plus que nous deux, en fait. La première soirée, c'est mon anniversaire. On est fin juin. Et on voit le lever du soleil. On trouve ça super cool. Et à partir de ce moment-là, on a décidé qu'à chaque soirée qu'on ferait, on allait soit se coucher suffisamment tard pour voir le lever du soleil, soit pas dormir pour voir le lever du soleil. Et donc, on a vu tous les levers de soleil qu'il pouvait avoir à chaque soirée. On a fait une soirée où tout le monde s'est couché à 2h du matin. Et nous, évidemment, on n'avait pas envie de se coucher vu qu'on était complètement en grand plan drague. Et donc, on s'est dit, bah non, mais on peut pas dormir là. On n'a pas vu le lever du soleil. Donc, c'est devenu une excellente raison de rester réveillé jusqu'à 6h du mat en attendant que le soleil se lève, qui nous donnait un petit peu un top pour nous dire, bon, bah c'est bon, là, vous pouvez dormir 2h et vous reposer un tout petit peu. À ces moments-là, je découvre à peu près tout de lui. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on se connaissait pas si bien que ça. Moi, je l'ai rencontré, il avait 16 ans. Là, il en a 18. C'est 2 ans où il a énormément changé. Et où, de toute façon, les peu de choses que je pouvais déjà connaître de lui étaient quasiment plus d'actualité, on va dire. Donc, je découvre un garçon vraiment génial. Il est hyper intelligent, il est hyper drôle. Et il mêle tout ça et il est juste extraordinaire, en fait. Et c'est vrai que c'est sympa, en fait, d'être un peu avec quelqu'un de plus grand. Et donc, il y a une maturité supérieure. Et forcément, il y a quelque chose de super cool qui se crée. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, où, après 2 ans à se connaître, on se rencontre vraiment. Contrairement aux jeunes de nos âges qui, d'habitude, passent leur vie à se draguer sur les réseaux sociaux, à s'envoyer des messages et à passer la nuit au téléphone, nous, on n'est pas très téléphone. Donc, le fait qu'ils répondent au téléphone, c'est une folie. Moi, je déteste passer des nuits au téléphone parce que je trouve ça très impersonnel, en fait. Les textos, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Et donc, en fait, on se voit, mais que aux soirées. Et en dehors des soirées, on ne se voit pas. Il y a ce truc qui fait que, certes, en soirée, on passe notre vie ensemble, mais d'un autre côté, comme on ne cherche pas à se voir plus que ça, Enfin, je sais pas vraiment, est-ce que je lui plais ou est-ce que je lui plais pas. C'est vrai qu'à chaque soirée, j'ai l'impression que oui, il a l'air content de me voir. Mais en dehors, quand la soirée se termine, bah, la soirée se termine et on passe à autre chose. Donc, est-ce que c'est juste dans la mouvance de la soirée et dans l'ambiance où bah, on se retrouve tous les deux et c'est sympa et on passe des bonnes soirées? Ou est-ce qu'il y a plus que ça? J'ai pas d'attente particulière de cette relation, en fait. Est-ce que ça peut devenir ce que ça deviendra? Ça n'a pas vraiment d'importance à ce moment-là. Et donc, j'attends de voir ce qui va se passer. Et je suis pas amoureuse à ce moment-là, je pense que lui non plus. Il y a ce garçon et je le vois demain et c'est génial. Et puis on passe la soirée et puis la soirée d'après je le vois et c'est génial. Et à chaque fois je le vois et c'est encore plus génial. Et je me rends compte qu'en fait, un peu indépendamment de ma volonté, il y a que lui que j'ai envie de voir aux soirées. Et le moment où il arrive à la soirée est le meilleur moment de la soirée. Et forcément en fait les choses se font de telle manière que... on peut plus se passer l'un de l'autre, en fait. Et c'est, il n'y a pas de moment où on se pose, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait, où on en est, qu'est-ce qu'on veut. C'est juste que les choses se font et ça se passe comme une évidence. L'été avance et on a un gros projet, en fait, cet été, avec pas mal de potes auxquels je participe et auxquels lui ne peut pas participer parce qu'il bosse comme caissier à ce moment-là. Et donc, c'est toute une semaine où je ne vais pas pouvoir le voir et où je suis excessivement fatiguée. Gros, gros manque de sommeil à ce moment-là. Et en fait, à ce moment-là, comme justement on est amené à parler de ce projet, on commence à parler un peu plus par message. Donc, tous les soirs, je lui raconte un peu comment se passe la journée. Le premier soir, en fait, je lui écris. Et au milieu de la conversation, je m'endors. Et je me réveille le lendemain matin à 6h et je vois que j'ai pas envoyé, enfin, que le dernier message que j'ai envoyé, c'était clairement pas un message qui annonçait que j'allais me coucher. Je lui envoie 10 messages pour m'excuser parce que je me sens trop mal. Et du coup, il me dit « Ah non, mais c'est pas un souci. Enfin, j'avais cru que j'avais fait quelque chose de mal, mais du coup, tant mieux, en fait. » Et je lui dis « Non, mais promis, t'inquiète pas, ce soir, on discute, je me rendors pas. » Et le soir, on discute, évidemment, je me rendors en plein milieu de la conversation. Et donc, j'essaye de trouver des stratagèmes. Donc, il y a un soir, je mets le flash de mon téléphone pour avoir de la lumière dans la chambre et pour me tenir éveillée, quoi. Et je me réveille le lendemain matin avec le flash bien allumé dans les yeux. Et je me suis évidemment endormie. Puis la nuit d'après, on s'appelle et puis je m'endors au téléphone. Et tous les soirs, comme ça, je suis exténuée et je finis par m'endormir. Et ça devient une sorte de jeu avec cette histoire du fait que je m'endors ou si je mets plus de 30 secondes à lui répondre à un message, il me dit « Ah bah ça y est, t'es endormie !» Un dimanche, pendant ce projet, il n'est pas en train de travailler parce que c'est dimanche et il nous rejoint sur le projet. Et il arrive au milieu de la journée, donc nous, la journée a déjà bien commencé. Et je le vois au loin et je me dis, bah, j'ai envie qu'il vienne me voir. Et c'est comme si tout le reste du projet n'existait plus, alors qu'il y avait plein de problèmes à gérer à ce moment-là. Et à ce moment-là, c'est un peu bizarre parce que tous les deux, on est terriblement contents de se retrouver. On n'attendait qu'une chose depuis toute la semaine, c'était de se voir à ce moment-là. Et en même temps, il y a rien dans notre relation qui légitime, on va dire, le fait de se sauter dans les bras et d'être super content de se retrouver, parce qu'en soi, c'est pas mon meilleur pote depuis 10 ans, quoi. Donc pourquoi lui plutôt que n'importe quel autre alors qu'on est 20 ce jour-là à se retrouver? Et donc c'est à ce moment-là que je sais qu'il se passe quelque chose, quoi, et que ça va pas juste être on se drague tout l'été et puis il se passe rien derrière. Je sais pas encore exactement quoi, je saurais pas dire sur quel type de relation ça va nous mener, mais je sais qu'il va se passer quelque chose. Donc 4 jours après, le projet se termine, enfin, donc quelque chose à fêter. Arrive la soirée, et donc là, évidemment, je suis un peu nerveuse parce que, pas vraiment parce que je le retrouve, mais parce que je sais qu'il va se passer quelque chose. En fait, implicitement, c'était la dernière soirée avant que je parte en vacances avec ma famille, donc on savait qu'on n'allait pas se revoir pendant un certain temps. Je sais qu'il va se passer quelque chose à cette soirée-là, et je sais que c'est, s'il se passe rien, de toute façon, il se passera jamais rien. Et je sais qu'il va pas jamais rien se passer, donc il se passera quelque chose, c'est un peu obligé, quoi. C'est the last chance, donc forcément, c'est la soirée où tout arrive. Et donc on arrive à cette soirée où c'est une soirée tranquille, encore une fois, on n'est que 7 cette fois-ci. Et je me souviens d'un moment assez marrant où on est 3 à discuter. et où on parle des écarts d'âge dans les couples, les deux. Est-ce que c'est choquant? Combien d'écarts d'âge c'est choquant? Est-ce que ça dépend tout ça? Et en fait, on tourne toute la conversation en fait pour savoir si ça dérange l'autre globalement. Et on est tous les deux en train de parler très clairement de notre situation très ouvertement. Et on a un pote au milieu qui sait pas du tout et qui comprend pas du tout ce qui est en train de se passer et qui lui nous donne son avis hyper factuellement. Et lui, il est là, il dit oui, non, mais moi je pense que. Et le gars, il argumente et tout ça, c'est exceptionnel. Et à chaque fois qu'il donne un argument qui est un peu contraire à ce que nous on a envie d'entendre, on est là, on fait oui, mais je pense que après ça dépend des situations ou alors dans certains cas. Et c'est très drôle parce qu'on est En fait, on amène la conversation pour dire que non, mais entre 16 et 18 ans, franchement, je trouve que c'est un écart d'âge, il n'y a pas de souci. Limite, c'est vraiment le meilleur écart d'âge pour sortir ensemble, quoi. Et donc, c'est ça toute la soirée. On passe la soirée collés l'un à l'autre. On se lâche pas. Et arrive la fin de la soirée où on commence tous à être un petit peu épuisés, forcément. On commence tous à être un petit peu alcoolisés aussi, forcément. Et donc, on est dans l'appartement d'une copine et il y a sa chambre. Et donc, on était supposés dormir tous dans le salon. Et on arrive à délicatement se faufiler pour aller dans la chambre. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on se retrouve juste tous les deux. Et où, il se passe un truc, forcément. Parce qu'on n'avait pas fait tout ça pour rien. On discute encore toute une bonne partie de la nuit, juste genre l'un à côté de l'autre. Et puis, finalement, il m'embrasse. Je l'attendais quand même depuis assez longtemps à ce moment-là. Et en même temps, c'est un peu sorti du réel, en fait. C'est comme si, à ce moment-là, on est comme si... comme entre deux mondes. C'est-à-dire qu'il se passe des choses où c'est impossible d'analyser, en fait, ce qui est en train de se passer pour nous. Donc, les choses se passent. Et c'est le lendemain matin où on se dit, mais... Enfin, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on fait? Et on n'en discute pas vraiment, en fait. On a une copine qui rentre dans la chambre, qui fait « Oh, mon Dieu !» et puis qui repart. Et à ce moment-là, juste, on est tous les deux, on est bien. Et c'est prêt pour durer, en fait. Et aujourd'hui, hiver 2021, on est toujours ensemble. Ça fait bientôt un an et demi qu'on est ensemble. Et tout se passe merveilleusement bien. Ma vision de l'amour, maintenant qu'il est rentré dans ma vie, c'est que forcément, j'y crois. Parce que quand les choses sont sous nos yeux, ce serait un peu abusé de les fermer, quoi. Je crois peut-être pas à l'amour au premier regard, mais en tout cas, je crois à la construction de quelque chose. Et je pense que oui, quand l'amour est là, il peut durer toute une vie. En ayant Karianne qui est rentrée dans ma vie, j'ai aussi forcément sa famille qui est rentrée dans ma vie, chez qui je passe énormément de temps parce qu'il vivait encore chez ses parents l'année dernière à cause du confinement. Et ses parents sont un couple très heureux, qui sont mariés depuis 20 ans. Et donc ça fait en fait un exemple aussi qui n'est pas forcément le mien et un exemple aussi de quelque chose qui marche et qui fonctionne et qui dure depuis longtemps. Et donc en fait, c'est tout plein de choses qui mises ensemble font que bien sûr aujourd'hui, je crois en l'amour et... plus en l'amour des dessins animés, mais aujourd'hui, j'y crois vraiment, en fait.
De qui es-tu amoureuse ?
De Guilhem, c'est mon amoureux.
Où est-ce que t'as rencontré Guilhem ?
Au parc de l'école. On jouait au parc, on faisait une maison d'insectes. Et Guilhem, il m'a dit, est-ce que tu veux qu'on s'embrasse tout de suite ? J'ai répondu, oui.
C'était romantique comme moment ?
Ça veut dire quoi, romantique ?
Est-ce que c'était un joli moment ? Est-ce que tu t'es sentie bien ?
Oui. En fait, Guilhem, il m'a dit que peut-être qu'on pouvait se marier tout de suite. Et du coup, on s'est mariés tout de suite.
Et se marier, ça veut dire quoi, en fait ?
Ça veut dire se faire un bisou sur les lèvres.
Qu'est-ce que t'as ressenti ?
De l'amour. J'étais amour et heureuse.
Est-ce que vous pouvez vous faire des bisous alors ?
Quand on est seul, dans la cour, on essaye de se trouver un coin des fois. Et à ceux qui nous demandent de me faire le bisou, et ben on le fait.
Et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes tous les deux avec Guilhem ?
On se parle. Et quand je l'invite chez moi, et ben on joue. On se raconte des histoires d'amour.
D'autres que la vôtre ?
Non, la nôtre. On se dit des trucs d'amour, quoi. Des mots d'amour, comme « je t'aime » ou... Et on se fait des bisous aussi.
Est-ce que vous voulez avoir des enfants ?
Oui, on veut adopter un enfant. Parce que j'ai pas envie d'en faire un. Et ce sera une fille. Et elle aura 7, 8 ans, ou 9, ou 10. Parce que j'ai pas envie d'avoir un bébé. Le bébé peut rien faire avec nous, alors que les grands, oui.
Et Guilhem aussi ?
Il m'a dit... Mais comment on va faire ? Est-ce que... Mais s'ils nous aiment pas ? Si on n'en trouve pas ? J'ai répondu... Mais si, on va en trouver. Dans une orphelinat.
Et qu'est-ce que t'as répondu à si jamais l'enfant ne vous aime pas ?
Mais il nous aimera sûrement.
T'en es sûre ?
Ben oui, parce qu'à chaque fois qu'on prend un enfant, il nous aime. Il trouve aussi des parents.
Pourquoi tu aimes Guilhem ?
Parce qu'il est gentil, parce qu'il est beau, parce que je suis amoureuse de lui et que je suis mariée avec lui.
Et où est-ce que vous aimeriez habiter avec Guilhem ?
Dans une grande maison, avec un grand jardin. On aura des animaux, des chiens, des chats, des poissons, des tortues, des poneys. Et même, eh ben... On aura abandonné l'école, nous on la reprendra avec Guilhem. On veut la reprendre parce qu'on veut, changer les trucs.
Ah, tu veux dire reprendre, la diriger plus tard ?
Oui, la racheter et on changera l'école. On la fera encore mieux.
Avec quelles idées par exemple ?
Je sais pas.
Vous avez pensé à quoi tous les deux ?
C'est que moi qui ai eu cette idée.
Mais t'aimerais quand même travailler avec Guilhem ?
Oui. Guilhem, pas Guilhem.
Cet épisode de Passage a été tourné et monté par Marie Sala. La musique est de Charles de Cilia et la réalisation de Lucie Lossel. Le mix est de Jean-Baptiste Aubonnet. Maude Benakcha est la chargée de production de Passage. Cet épisode a également été rendu possible grâce à Marion Girard, responsable de production, Mélissa Bounoua, directrice des productions, et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Le générique de Passage a été composé par November Ultra et retravaillé par Charles de Cilia pour cet épisode. Je suis Maureen Wilson et Passage est une production Louis Média. Vous connaissez la chanson, vous pouvez vous y abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous envoyer vos histoires à hello@louismedia.com et si vous souhaitez soutenir Louis pour ses fêtes de fin d'année, n'hésitez pas à vous abonner au club. Vous y retrouverez des bonus, une newsletter, des rencontres avec l'équipe et bien plus. C'est sur louismedia.com/club. À très vite.
Bonjour, c'est Zoé de Louis et j'ai découvert un nouveau podcast dont j'aimerais vous parler. Il s'agit du podcast Les Voix du Crime, produit par RTL. En tant que grande fan de faits divers, j'ai adoré ces enquêtes judiciaires racontées par des avocats, enquêteurs, proches des victimes, suspects et même coupables. Bref, si vous cherchez un bon podcast d'affaires, écoutez Les Voix du Crime. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. À très vite.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ.
the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.